Merci d'écouter RFI, il est 6h30 à Moroni, 4h30 ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Votre première édition d'Afrique Matin et le journal pour commencer avec à la une l'opposition aux Comores qui annonce son retrait des législatives. Le premier tour avait déjà été largement boycotté après la publication de premiers résultats. L'opposition unie des Comores dénonce de graves irrégularités. Au Mozambique, l'aube d'un nouveau jour de manifestation. Hier à Maputo, l'intronisation du nouveau parlement a été perturbée par des partisans de Venancio Mondlane. Des rassemblements à l'appel donc du principal opposant qui considère l'élection du 9 octobre comme volée. C'était il y a 14 ans, jour pour jour, après 23 ans de dictature, Ben Ali quittait le pouvoir en Tunisie. Reportage dans la deuxième partie de cette édition d'Afrique Matin. Et puis, nous nous intéressons ce matin à la deuxième vie des stades ivoiriens, un an après la CAN 2024. 6 enceintes homologuées par la CAF qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, nous le verrons. Pas de deuxième tour des législatives pour l'opposition aux Comores. Alors que les premiers résultats provisoires ont été publiés à Anjouan après le premier tour, l'opposition unie des Comores, un groupement de formations politiques, annonce son retrait et dénonce de graves irrégularités. Dimanche dernier, donc, lors du premier tour, déjà boycotté par l'opposition, des incidents ont été signalés. Le gouvernement appelle de son côté au dialogue. Abdallah Mzembaba.
Pour l'opposition unie des Comores, les preuves des fraudes existent. Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange et porte-parole de l'OIC, dénonce l'irrégularité du scrutin de dimanche.
Je ne pense pas qu'il y avait lieu de rester dans la course. Donc nous avons décidé de nous retirer et de ne pas reconnaître ces résultats. Aujourd'hui, le président Azali a voulu faire en sorte qu'il est 100%. Mais ce que nous avons montré à l'opinion nationale et internationale, c'est que ce n'est pas un homme de parole. Ce n'est pas un homme qui respecte la démocratie, encore moins les Comoriens.
Mais cette décision de retrait met en lumière les divisions au sein de l'opposition, car d'autres partis, comme le PARI, préfèrent attendre les résultats définitifs pour décider de leur stratégie. De son côté, le pouvoir invite l'opposition, munie de ses preuves, à saisir les organes habilités pour dénoncer les fraudes. Homed Msedié, conseiller politique du président Azali Assoumani.
En ce qui concerne le fait de se retirer du processus électoral, cela, bien évidemment, n'est pas une bonne chose, mais en tout état de cause, nous continuerons le dialogue pour convaincre les uns et les autres de continuer ensemble le processus électoral en tenant compte, bien sûr, des revendications qui seront présentées par nos opposants.
En juin, les 15 sièges ont été remportés dès le premier tour par le parti au pouvoir. À Moéli, où l'opposition a boycotté le scrutin dans presque toutes les circonscriptions, le camp présidentiel devrait également rafler tous les sièges. Abdallah Mzembaba, Moroni.
En Ouganda, la reprise hier du procès de Kizza Besigye, une procédure qui ne se poursuivra peut-être pas devant la cour martiale de Kampala. C'est en tout cas le souhait des avocats de l'ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition à Yoweri Museveni. La cour martiale doit rendre aujourd'hui une décision sur sa compétence à juger Kizza Besigye. Il est accusé de détention illégale d'armes et désormais de trahison pour des crimes supposés commis à l'étranger, des accusations passibles de la peine de mort. Christina Okello.
Les avocats de Kizza Besigye dénoncent une cour martiale sous influence directe de l'exécutif. Ils contestent également la compétence de cette juridiction militaire pour juger un civil, d'autant plus que les crimes reprochés auraient été commis hors des frontières de l'Ouganda. Pour l'un de ses avocats, Maître Kato Tumisime, c'est la vie de l'opposant qui est en jeu.
Si nous ne mettons pas un terme à ces poursuites malveillantes qui ne sont pas fondées sur la loi et qui ne garantissent pas aux deux accusés le droit à un procès équitable, ce sera une question de vie ou de mort. Si nous ne venons pas en aide à ces deux accusés, ils finiront par être condamnés à mort. La meilleure chose que nous puissions faire maintenant, c'est d'arrêter ces traitements brutaux et cruels infligés aux accusés et de faire en sorte qu'ils retrouvent leur liberté. Cela nous permettra également d'éviter qu'ils ne soient exécutés par ce régime qui utilise la cour martiale générale pour les poursuivre.
Si le tribunal militaire confirme sa compétence, la défense prévoit de saisir la cour constitutionnelle pour faire stopper des procédures qu'elle estime illégitimes et dictées par des considérations politiques. Ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition à Yoweri Museveni, Kizza Besigye avait annoncé l'année dernière la création d'un nouveau parti en vue des élections de 2026. Une condamnation pourrait le priver de toute participation motivation à la vie politique pour les 10 prochaines années.
Christina Okello. Au Mozambique, le Parlement déserté hier par une partie de l'opposition. Les députés ont pourtant été investis dans la nouvelle Assemblée nationale issue des élections générales du 9 octobre. Les représentants du Frelimo ont dû être escortés dans les rues de Maputo. À l'appel de Venancio Mondlane, des barricades ont été érigées par des partisans du candidat déçu de l'élection présidentielle. Le premier de 3 jours de grève générale, alors que Daniel Chapeau doit lui être investi demain à la tête du Mozambique. David Baché.
Sur l'avenue des accords de Lusaka, une benne à ordures est renversée. La police va et vient, tirant des gaz lacrymogènes. Driguise est venue manifester. Elle se cache dans une rue adjacente.
On reste tous là parce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté à cause des tirs. C'est plein de policiers. On préfère rester là, on tient à notre vie. On a peur d'être touchés par les tirs, on pense à nos familles.
Un peu plus loin, le quartier Benfica ressemble à une ville fantôme. Tous les magasins sont fermés, les rues désertes. Même s'il soutient Venancio Mondlane, Dalcinho Mutsua préfère rester chez lui.
Aujourd'hui, la police tue, on se cache. Ce sont des morts inutiles durant des manifestations pacifiques. Je préfère rester à la maison, manifester silencieusement. Ça reste une protestation parce que personne ne va travailler. Le peuple est fatigué, il veut du changement.
Malgré ces tensions, la première séance parlementaire de l'Assemblée nouvellement élue s'est tenue. Les députés ont prêté serment, sans public. Célitiou, commerçant, ne se reconnaît pas dans ce Parlement.
On a des députés qui ont 80 ans et qui se voient confier des mandats encore et encore. Ils ne représentent pas le peuple. Ils sont tous du Frelimo. Le Frelimo est un système. C'est un petit groupe de personnes qui ne représentent pas le Mozambique.
Le président Philippe Nyusi a demandé aux députés d'engager une réflexion sur un nouveau système électoral qui inspirerait plus de confiance aux citoyens.
RFI, 4h37 à Kinshasa, où l'armée annonce de nouveaux gains de territoire. Hier, l'est de la République démocratique du Congo a encore été le théâtre d'âpres combats entre l'armée, appuyée par les groupes armés locaux dits Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Des affrontements soldés par une annonce des autorités militaires congolaises. Elle revendique avoir récupéré plusieurs villages des mains des rebelles en territoire de Massissi au Nord Kivu, à Goma, héritier Baraka.
Ces avancées des FARDC ont été réalisées dans le cadre de l'opération dénommée Caterpillar D2. Selon le colonel Guillaume Djike, cette action est planifiée par les commandants des opérations du Nord et du Sud Kivu.
Nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte. L'opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés.
Ce lundi, l'armée a pilonné avec un avion Sukhoi 25 les collines de Mufunzi et Nyaboro aux alentours d'Ngungu, à plus d'une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans les massifs selon des sources locales et sécuritaires. Des combats violents opposant les deux parties ont aussi eu lieu dans un autre axe, dans les territoires de Lubero selon l'armée. Depuis le début de l'année, des affrontements d'une grande intensité entre les M23 et les FARDC sont signalés au Nord Kivu. Héritier Baraka, Goma, RFI.
C'était il y a 14 ans, jour pour jour, l'incrédulité suivie d'une explosion de joie dans les rues de Tunis. Après 23 ans de dictature, Ben Ali quittait le pouvoir et les Tunisiens se prenaient à rêver de démocratie. La Tunisie ouvrait alors la voie à des printemps arabes et suscitait l'admiration. Sa transition pacifique sera même saluée du prix Nobel de la paix en 2015. Alors, 14 ans plus tard, où en est la Tunisie ? Élément de réponse avec Alexis Guilleux.
Pas de commémoration officielle programmée, seul un rassemblement à l'initiative de l'opposition est prévu à ce jour aux abords de l'avenue Bourguiba. L'anniversaire de la révolution ne soulève plus les foules en Tunisie et il semble loin le temps où le pays vivait au rythme des débats télévisés et radiophoniques à longueur de journée. À la sortie de la dictature, la Tunisie avait une obsession, éviter à nouveau la concentration des pouvoirs aux mains d'un seul homme. En 2014, le pays se dote alors d'une nouvelle constitution qui consacre ce que l'on a appelé les trois présidents de la République, de l'Assemblée et du gouvernement. Cela devait assurer l'équilibre des pouvoirs, mais c'est une lutte intestine qui émerge et chacun cherche à imposer ses hommes et ses idées. À cela s'ajoutent des assassinats politiques, des attentats, une crise parlementaire et économique, puis la pandémie de Covid-19. Profitant de la lassitude de ses compatriotes, le président Kais Saied, élu démocratiquement avec plus de 72% des voix en 2019, s'arroge les pleins pouvoirs moins de 2 ans plus tard. Réélu dans des conditions controversées en octobre dernier avec 90,7% des voix, le chef de l'État a depuis détricoté un à un tous les contre-pouvoirs mis en place depuis 2011. 14 ans plus tard, la Tunisie a renoué avec ce qui l'avait poussé à se soulever, le pouvoir d'un seul.
Et on revient sur la chute de Ben Ali en Tunisie avec le reportage de notre correspondante à Tunis dans la deuxième partie de cette édition d'Afrique Matin. Alors que Meta annonçait la semaine dernière mettre fin à son système de vérification de l'information, nous nous intéressons ce matin à la prolifération des fake news sur le continent et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Un fléau contre lequel veut lutter la nouvelle plateforme de fact-checking Fact Africa. À Dakar, ses membres sont particulièrement attentifs au contenu généré à partir de l'intelligence artificielle. Correspondance de Juliette Dubois.
En Afrique de l'Ouest et en particulier dans le Sahel, une thématique fait particulièrement l'objet de fausses informations et manipulations.
80-90% des fausses informations sont basées sur la question sécuritaire.
Malik Konaté est un journaliste malien à la tête de la nouvelle plateforme Fact Africa.
On a l'habitude de voir des petites vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle pour dire que tel groupe a attaqué tel groupe ou même l'armée a attaqué tel groupe.
Démêler le vrai du faux devient de plus en plus compliqué avec des puissants outils d'intelligence artificielle en accès libre.
Tout récemment, il y a une vidéo qui circulait de l'artiste Aya Nakamura. Les ressortissants des pays de l'AIS ont diffusé cette vidéo-là, disant que l'artiste a chanté pour Assimi. À travers l'IA, l'intelligence artificielle, on peut générer la voix d'un artiste et on peut écrire les textes.
Les fact-checkers manquent d'outils pour vérifier l'authenticité des contenus, par exemple des pastilles audio. Parfois, il s'agit d'images ou de vidéos authentiques mais sorties de leur contexte original. Rita Pascal est présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire.
Il y a eu une arrestation tout récente d'un activiste politique qui avait fait état d'une situation qui était dans les prisons au niveau de la Côte d'Ivoire, qui disait que des prisonniers politiques étaient maltraités à l'appui des photos en fait, qui sont sorties de leur contexte, qui n'étaient pas des photos de la prison en fait.
Dans ces cas-là, des outils simples existent pour vérifier la provenance des images. Le collectif Fact Africa souhaite donc faire de l'éducation aux médias pour sensibiliser le public à ces réflexes de vérification. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
C'était l'une des promesses de la Côte d'Ivoire, la deuxième vie des stades de football un an après la CAN 2024. Pour accueillir la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire avait investi 1,3 milliard d'euros, une somme colossale largement destinée à la construction et à la rénovation d'infrastructures sportives. 6 enceintes homologuées par la CAF qui font la fierté du pays et qui continuent de faire vibrer les Ivoiriens. Johan Gourlet.
Beaucoup craignaient que ces stades flambant neufs ou rénovés deviennent des éléphants blancs. Le nom donné à ces enceintes très coûteuses délaissées après la compétition. Mais pour l'heure, le bilan semble plutôt rassurant. Après la CAN, la sélection ivoirienne a joué dans la plupart des stades de la compétition et les 2 enceintes d'Abidjan ont même accueilli jusqu'à 7 matchs lors des trêves internationales. Des sélections africaines n'ayant pas d'infrastructure aux normes pour accueillir les rencontres. Le Bénin est même devenu un habitué du stade Félix Houphouët-Boigny. Les stades d'Abidjan, de Yamoussoukro et Korogo ont accueilli des matchs de Ligue 1 ivoirienne et ceux de Bouaké, San Pedro et Abidjan des rencontres de coupes africaines. Un bilan globalement satisfaisant, mais rentable, comme nous l'explique Yassine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football.
Les infrastructures sportives en Afrique ne sont pas rentables. Même en Europe, elles ne sont pas rentables. Si vous regardez, elles deviennent rentables quand ça devient la propriété d'un club qui en fait un espace de vie, comme les grands clubs anglais, les grands clubs du Real de Madrid en Espagne, etc. Mais les infrastructures d'État n'ont pas de rentabilité. Par contre, elles ont une exploitation où l'État met les moyens et où les exploitants mettent aussi des moyens. Donc c'est un mix qui nous permet d'entretenir les infrastructures dans de bonnes conditions.
Et en 2025, les stades continueront de vivre. Dès la fin avril, la Côte d'Ivoire accueillera une nouvelle CAN, celle des moins de 20 ans cette fois. Et les enceintes changeront aussi de dimension en accueillant de grands concerts. La star du rap ivoire Didi B a prévu un Mojo Hope Tour Stadium dans les stades de Bouaké fin mars, Korogo en avril et Abidjan en août. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
RFI 3h44 en temps universel, la suite d'Afrique Matin avant un nouveau journal dans 16 minutes maintenant.
Afrique Matin sur RFI. Simon Bourtembourg.
Et nous serons dans quelques instants en Tunisie aux côtés de ceux qui ont assisté à la chute de Ben Ali il y a 14 ans. Le coup d'envoi aux révoltes du printemps arabe et la fin d'un règne sans partage de 23 ans. Reportage à suivre le long de l'avenue Habib Bourguiba, grand témoin de la chute de Ben Ali. À suivre également vos rendez-vous avec l'économie. Afrique Économie nous emmène à Maurice, où nous verrons comment le métro express a creusé le trou dans les finances publiques à vitesse grand V. La chronique des matières premières à suivre également, consacrée ce matin à la banane indienne et à la politique de New Delhi pour une plus large exportation du fruit. Et puis dans une quinzaine de minutes, l'actualité des territoires français de l'océan Indien avec nos confrères de la première. Mardi 14 janvier 2025, une date éminemment symbolique en Tunisie. Si le 14 janvier n'est plus officiellement la date anniversaire de la révolution tunisienne, il y a 14 ans, jour pour jour, le dictateur Ben Ali tombait. Le point d'orgue de 4 semaines de manifestations continues et des souvenirs qui restent gravés pour beaucoup de Tunisiens. C'est ce qu'a constaté notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.
Dans le café Bonaparte, à quelques mètres de l'avenue Bourguiba, Ramdan Drissi, 69 ans, s'affaire derrière le comptoir. Ce cafetier a toujours travaillé à proximité de l'avenue Bourguiba depuis 40 ans. Le 14 janvier 2011, il était vendeur de costumes pour hommes dans une boutique de l'avenue.
Je me souviens du dernier discours de Ben Ali à la télé, celui qui a précédé sa chute. C'était vraiment un mauvais discours. Et ensuite, le lendemain, je suis allé au travail, j'ai ouvert la boutique et j'ai tout vu. Les manifestants qui affluaient, ceux qui ont crié devant le ministère de l'Intérieur, c'était vraiment un grand jour pour moi, même si je n'en comprenais pas l'ampleur.
Aujourd'hui, Ramdan fait partie des déçus de la révolution et ne célébrera pas le 14 janvier.
Comme beaucoup de Tunisiens, je n'aime pas trop me remémorer la révolution et j'espère qu'on n'en fera pas une autre. La situation économique ne s'est pas du tout améliorée depuis.
D'autres restent fidèles à la mémoire de la date du 14 janvier, comme Selma Jabès, la propriétaire de la librairie El Kiteb, symbole culturel de l'avenue Bourguiba.
Nos libraires venaient tous les jours, certains à pied, certains se débrouillaient comme ils pouvaient, mais ils venaient quand même. On a tenu bon, parce que pour nous c'était très important d'être présent, d'être là pour les manifestants. Très souvent, on ouvrait les portes pour faire rentrer les manifestants qui passaient, rien que pour les faire ressortir par l'autre porte de derrière.
Quelques jours après la chute du dictateur, la librairie met en vitrine tous les livres interdits à l'époque de Ben Ali, un engagement qu'elle assume jusqu'à aujourd'hui.
Le contrôle sur les livres, sur la presse, sur les médias d'une manière générale, se fait de manière un petit peu insidieuse où on essaye d'obliger les gens à faire de l'autocensure. Or, nous, depuis toujours, je dirais, depuis la création de la librairie, c'est ma mère à l'époque qui avait démarré, on n'a jamais voulu céder à ces pressions.
Et dans la vitrine, la liberté d'expression est présente, avec le livre d'un collectif de chercheurs intitulé « Le pouvoir d'un seul ». Ce mardi 14 janvier, si des manifestations d'opposants politiques sont prévues, la librairie restera ouverte, comme chaque année. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Un point sur les principaux titres de l'actualité internationale et une journée particulièrement meurtrière hier dans la bande de Gaza. Les secours affirment qu'au moins 50 personnes ont été tuées dans la seule ville de Gaza sous des frappes israéliennes. L'État hébreu fait de son côté état de 5 soldats morts dans le nord de l'enclave. La Cour constitutionnelle sud-coréenne doit ouvrir aujourd'hui le procès en destitution de Yoon Suk-yeol. La procédure sera longue puisqu'elle peut durer jusqu'à la mi-juin, mais elle peut aussi déboucher sur la déchéance définitive du chef d'État. Yoon Suk-yeol, toujours barricadé dans sa résidence privée après sa tentative infructueuse d'imposer la loi martiale il y a un mois. Le Liban se dote d'un nouveau Premier ministre. Le président Joseph Aoun a choisi Nawaf Salam comme chef de gouvernement. Il est diplomate d'expérience, âgé de 71 ans et actuel président de la Cour internationale de justice. Sa candidature était largement soutenue par des mouvements opposés au mouvement du Hezbollah, sorti essoré de plusieurs mois de guerre par Israël. Le vent se renforce de nouveau aux États-Unis autour de Los Angeles, comme le redoutaient les services de secours. Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues entre aujourd'hui et demain, ce qui rend probable de nouveaux départs de feu, alors que les deux principaux foyers sont à peine circonscrits. 24 personnes au moins sont mortes depuis une semaine et le déclenchement des incendies meurtriers autour de la mégalopole américaine. RFI, 7 heures passées de 49 minutes à Maurice. Maurice, où ce mardi, 45 000 personnes se déplaceront avec le métro express, un mode de transport en commun destiné à désengorger le trafic entre les villes. 18 rames ont été inaugurées en 2020, mais le métro express est devenu un gouffre financier avec un déficit annuel de 300 millions de roupies, l'équivalent de 6 millions d'euros. Pour l'exécutif mauricien, il s'agit donc de stopper l'hémorragie. Les détails avec Abdoulaye Rally à Port-Louis.
Présenté comme l'un des plus grands chantiers jamais entrepris à Maurice, Metro Express est devenu, selon le nouveau gouvernement installé en novembre, un gouffre financier insoutenable. Dans une déclaration à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a placé le réseau ferroviaire en tête des sociétés étatiques déficitaires. Pour Navin Ramgoulam, l'entreprise est désormais insolvable.
Metro Express. Metro
Express est incapable de rembourser sa dette, un emprunt de 16 milliards de roupies contracté auprès de l'Inde.
Opérationnel depuis 4 ans, Metro Express relie les 5 villes de Maurice sur 30 km. Ses 18 rames desservent 21 stations de Port-Louis à Cueppip. Environ 45 000 voyageurs, soit un tiers des usagers urbains, utilisent quotidiennement ce mode de transport. Cependant, sa rentabilité pose un sérieux problème, déplore le ministre des Transports, Osman Mahomed.
Les coûts d'opération sont largement supérieurs aux revenus de la compagnie. Je travaille sur un plan pour assainir le lourd impact du Metro Express Limited sur les finances publiques.
Mais est-ce que la rentabilité est indispensable pour une entreprise publique de cette nature ?
On ne peut pas ad infinitum faire de sorte que la compagnie soit financée par les fonds publics.
Metro Express dessert les zones les plus stratégiques du territoire, notamment les 5 villes du pays, le technopôle d'Ebene et la cité universitaire de Réduit. Selon Mohini Natou, directrice générale au ministère des Transports, un compromis doit être trouvé.
Le nouveau mode de transport a fidélisé de nombreux voyageurs à l'île Maurice, notamment les voyageurs urbains. Maintenant, il faudra bien continuer à offrir le même service à ces 45 000 voyageurs tous les jours, sans que cela impacte davantage les coûts. Et au niveau de MEL, nous mobilisons nos ressources pour voir comment arriver à rentabiliser le métro express afin de moins peser sur le budget national. C'est important.
Afin de rationaliser le service, le gouvernement envisage une augmentation du prix du ticket, une révision des conditions de gratuité pour les seniors et les étudiants, ainsi qu'un report des prochains développements. Quant aux anciens administrateurs de Metro Express, ils défendent un projet stratégique avec des bénéfices économiques et sociaux à long terme. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Place à la chronique des matières premières consacrée ce matin à la banane. Et une question, l'ambition de la banane indienne est-elle une menace pour celle d'Afrique ? Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Inde est en effet le premier producteur de bananes au monde. Si pour l'heure le fruit est principalement consommé au niveau national, la banane indienne commence à s'exporter. New Delhi vise en tout cas pour objectif 1 milliard de dollars d'exportation avec de nouveaux marchés cibles. Marie-Pierre Olfan.
Un peu moins de 2% du marché mondial de la banane, c'est ce que l'Inde pesait l'année dernière malgré ses 35 millions de fruits produits. Mais cela pourrait changer, c'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités et la filière. Les faibles volumes de bananes indiennes jusque-là exportées voyageaient par avion, mais le pays a mis en place un protocole avec le transporteur Maersk pour exporter ses produits frais dont la banane, un fruit périssable qui nécessite une maîtrise du processus de maturation et donc de la température. La banane doit être stabilisée à 13 ou 14 degrés pour ne pas mûrir durant le voyage qui peut prendre 2 ou 3 semaines selon les destinations. L'année dernière, les exportations de bananes indiennes ont rapporté 300 millions de dollars au pays, soit presque le double de l'année précédente, pour atteindre l'objectif du milliard de dollars dans les 5 années qui viennent. L'Inde souhaite renforcer ses positions au Moyen-Orient, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Russie. Elle a aussi envoyé son premier conteneur d'essai en Europe il y a un peu plus d'un an. Sa place sur ce marché reste microscopique, mais pourrait devenir une préoccupation pour la filière africaine. Dans le secteur caractérisé par des volumes importants et des marges faibles, les droits de douane sont décisifs. La banane africaine bénéficie d'une exemption de ses droits et des quotas également pour entrer en Europe, ce qui n'est pas le cas de celles produites en Inde pour l'instant. Mais la vigilance est de mise chez les pays pays producteurs qui subissent déjà une concurrence acharnée de la banane d'Amérique latine.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières tous les matins sur nos antennes et quand vous le voulez sur notre site et nos applications. RFI 6h55 à Mayotte, place à l'actualité des territoires français de l'océan Indien avec nos confrères de La Première. Un journal présenté ce matin par Alex Léveillé et à la une, la levée hier soir de l'alerte rouge à Mayotte. Bonjour Alex.
Madame, Monsieur, bonjour. Alors que Mayotte est sujette aux pluies et vents violents, le préfet François-Xavier Bieuville a décidé de lever l'alerte rouge hier. Donc les habitants sont autorisés à circuler et les activités peuvent reprendre progressivement. François-Xavier Bieuville.
Premier message qui est un message à la fois de soutien, un message de compassion, un message d'accompagnement pour mes compatriotes mahorais et mahoraises qui ont de nouveau connu un événement significatif avec des pluies très importantes et de la boue, avec du vent, avec vraiment une période qui a été extrêmement difficile hier. Comme vous le constatez, nous avons encore beaucoup de vent, beaucoup de pluie à venir puisque nous avons un événement de mousson, de cache-quasi qui va arriver dans les prochaines heures sur l'archipel et par conséquent, toutes ces mesures me conduisent avec un territoire qui est particulièrement fragilisé, de maintenir l'alerte rouge et de passer en alerte orange, pluie intense et orage. Alors sur le bilan humain, c'est un bilan finalement qui est stabilisé. Nous n'avons eu aucune victime, simplement des personnes en urgence relative qui ont été prises en charge soit dans les dispensaires, soit par les services de secours, soit à l'hôpital de Mamoudzou. Finalement, un nombre très faible. 73 personnes se sont présentées au CHM et dans les trois dispensaires. Et nous avons dénombré que 5 personnes qui devaient être en relation directe avec l'événement climatique. Donc le bilan est très très faible. Malgré tout, je pense à chacune de ces personnes, évidemment, en leur souhaitant un prompt rétablissement.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte. Et si l'alerte rouge est levée, Mayotte reste tout de même en vigilance orange. Floriane Ben Hassem, responsable de Météo France à Mayotte.
On reste sur un temps qui est quand même assez perturbé, avec des averses à caractère orageux au moins jusqu'en milieu d'après-midi, avec un risque quand même important. On va continuer à avoir du vent qui va être localement, enfin en moyenne de 35 à 45 km par heure. Il peut être plus soutenu avec des rafales 60-70, notamment sous les grains orageux, comme vous pouvez le voir derrière moi. On attend aussi des marées hautes cet après-midi à 16h20 et cette nuit à 4h30 qui vont être renforcées par la houle qui est encore générée par Dikeledi, bien qu'il soit loin de nos côtes. Donc une vigilance particulière pour tous les villages côtiers de Mayotte autour de ces pics de marées hautes. Alors normalement à partir de demain, on devrait avoir une alternance entre des nuages et des éclaircies et revoir un petit peu le soleil sur notre département. On gardera quand même un vent moyen qui va rester présent demain et après-demain. Donc amélioration à partir de demain et amélioration très durable mercredi du temps sur notre département.
Floriane Ben Hassen, responsable de Météo France à Mayotte, était au micro d'Anastasia. La guerre de Mayotte, la première. Et la tempête tropicale Dikeledi poursuit sa route, mais elle n'a pas épargné le village de Bouigny, situé au sud-est de Mayotte. Le récit d'Aurélien Février.
Oh là 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 là, inondation en Bouigny.
La montée des eaux est fulgurante. Les maisons sont inondées. Le niveau de l'eau continue de monter. La cour de cette dame est complètement submergée. La population se déplace à bord des Laka. L'eau, elle, file à une vitesse folle vers la mer.
C'est du lourd.
La puissance du courant va détruire la plage du village.
J'ai eu très peur de la montée.
À partir de là, l'eau s'évacue de Mbouini. Le pire est passé, même si la crainte désormais pour le village, c'est la submersion marine liée aux grandes marées annoncées.
Aurélien Février de Mayotte la première et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Et c'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin, réalisée par Laurent Hérault, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Restez bien à l'écoute de RFI dans une minute, un nouveau journal.
Depuis le Venezuela, je m'appelle Valentina, je suis prof de français et j'utilise le journal en français facile tous les jours en cours.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
C'est un super outil pédagogique qui permet d'évoluer dans la compréhension de l'oral et aussi d'être au courant de l'actualité internationale.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.
ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Colonisation, esclavage, la Suisse fait son examen de conscience. La Confédération n'a jamais possédé la moindre colonie, mais elle a largement participé au fait colonial, à travers des entreprises et des individus. À Zurich, une exposition vient colmater des années d'amnésie sur ce trouble passé.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.